cette rencontre entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople, c'est fondamental pour la vie de l'Église chrétienne à travers le monde. Bien sûr, il y a eu cet événement historique de Paul VI et de patriarche Athénagoras en 1964. Et ce que je trouve magnifique dans la rencontre qui vient, c'est qu'au-delà des conflits de l'histoire, nous avons une nouvelle belle rencontre qui va se vivre entre le pape François et puis le patriarche Bartholomée. Et c'est un très grand sujet de joie parce que ce n'est pas sur l'orgueil, ce n'est pas sur l'extension du pouvoir, mais c'est sur l'humilité. Et quand deux hommes se rencontrent dans l'humilité, deux chefs d'église se rencontrent dans l'humilité, eh bien ça change le visage de l'église.
Quelle prière peut-on attendre de l'église et du pape François pour la paix dans cette situation actuelle?
Le pape François a demandé dès le départ qu'on prie pour lui. Et je crois que aussi pour ce voyage, c'est très important que des personnes de toutes les églises chrétiennes et les personnes d'autres traditions religieuses prient pour ce voyage. Parce que ce n'est pas d'abord un être humain qui peut changer les choses, c'est la vie de l'esprit d'humilité, la vie qui va permettre un autre regard sur la situation. Lorsque Paul VI s'était rendu en 1964 en Israël, en Palestine, c'est parce qu'il y avait un prêtre ouvrier qui était établi en Palestine, qu'il avait invité. Et il voulait que Paul VI vienne voir. Et je trouve intéressant que Paul VI avait dit à l'époque les raisons pour lesquelles il voulait partir en Palestine. Il avait utilisé quatre mots: simplicité, piété, pénitence et charité. Et là, on voit bien que c'était cette attitude-là de simplicité, de piété, donc de prière, de pénitence, de demande de pardon et d'amour qui l'avait motivé. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tel impact de cette rencontre. Et je suis persuadé que le pape François et le patriarche Bartholomée vont aussi se rencontrer dans cette attitude. Donc la prière, c'est une manière aussi de vraiment enraciner dans une ouverture de cœur et d'humilité pour que l'Esprit Saint puisse permettre quelque chose de nouveau dans cette situation qui est bloquée.
Qui dit prière dit aussi rencontre et dialogue. Professeur Kejavi, quel rôle joue actuellement dans les églises le paradigme conceptuel et l'attitude du dialogue?
Le dialogue, c'est quelque chose qui est très fondamental dans beaucoup d'églises. On voit que au niveau de l'évolution des églises, la dimension du dialogue a été intégrée. On le voit très bien depuis Vatican II, on le voit aussi dans le Conseil œcuménique des églises, on le voit dans les fédérations mondiales de différentes églises à travers le monde. On le voit aussi dans ce mouvement qui grandit extrêmement vite, c'est-à-dire le mouvement évangélique. On voit qu'eux aussi, dans leur théologie, ils ont intégré beaucoup plus le dialogue. Le mouvement de Lausanne, qui est ce grand mouvement d'évangélisation du monde, qui s'était retrouvé à Lausanne, puis après à Manille, puis à Cape Town, eh bien ce grand mouvement qui rassemble des centaines de millions d'évangéliques, on voit qu'eux aussi tiennent compte du dialogue. Donc l'idée du dialogue, je crois que ça s'est beaucoup développé. En même temps, il faut être très réaliste, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, nous vivons une période de crispation, parce que les gens ont peur, il y a la mondialisation qui est d'abord économique, mais elle est aussi culturelle, et les gens ont peur de perdre leur identité, donc il y a aussi une réaffirmation forte des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs, des hindous, on le voit avec les élections toutes récentes en Inde, où c'est le BJP, avec la philosophie de l'affirmation de l'hindouisme qui prédomine. Donc il y a une ouverture au dialogue, et en même temps, on voit qu'il y a des crispations, il y a des peurs. Et c'est pour cela que l'importance de la rencontre, telle que le vit le pape François, est très importante, parce que on voit que dans son attitude, il est chrétien, catholique, il a cette ouverture de cœur. Donc on peut avoir une identité claire et on peut aussi rencontrer, dialoguer. Et je crois que ce modèle-là, c'est un modèle qui doit se développer à travers la planète.
Et en ce qui concerne les grandes traditions religieuses de l'humanité?
Je crois qu'on voit le même processus. On voit l'extraordinaire complexité. Lorsqu'on voit l'islam, il y a des courants très ouverts, il y a des courants beaucoup plus fermés, plus agressif, plus militant. On le voit aussi au sein du judaïsme. Donc, lorsqu'on parle des traditions religieuses, il faut être extrêmement prudent pour ne pas projeter quelque chose qui soit uniformisant. Il y a une très, très grande diversité. Donc, dans le voyage qui vient du pape, je crois que là aussi, c'est très précieux parce qu'il va prendre le temps de rencontrer les responsables, les plus grands responsables du côté juif ou du côté musulman, mais il rencontre aussi les responsables politiques des deux côtés, et ça, c'est fabuleux. Et par rapport aux crispations, d'avoir un homme qui vient avec humilité à la rencontre, je crois que ça va favoriser des changements en profondeur. Je trouve très important aussi que le pape, lorsqu'il se rend en Israël, qu'il fasse ce que Jean-Paul II avait fait en l'an 2000, hein, de visiter le Yad Vashem, donc ce musée qui rappelle les horreurs de la Shoah, de cette catastrophe, de cette destruction. C'est aussi une façon de dire, on écoute ceux qui souffrent. On ne doit pas d'abord faire des grandes théories, on écoute ceux qui souffrent, et on écoute ceux qui souffrent des deux côtés. Les Juifs ont souffert à travers l'histoire, ils continuent de souffrir aujourd'hui, et aujourd'hui l'antisémitisme se répand, se développe, donc c'est très important que les Juifs soient rassurés, en disant nous écoutons votre souffrance et nous ne voulons pas que cette souffrance redevienne ce qu'elle a été. Donc il faut limiter cela. Et en même temps, nous savons bien que beaucoup de Palestiniens souffrent de ce qu'il y a une partie de leur terre qui est colonisée. Et voilà, donc il y a une vraie souffrance de part et d'autre. Donc écoutez les deux souffrances, écoutez avec humilité et dans la prière les deux souffrances et essayez de faire avancer les choses. Je pense que c'est à partir de cette attitude que l'on peut ouvrir les cœurs et favoriser le dialogue qui existe mais qui peut se replier quand on a peur.
Face à l'affirmation d'un athéisme militant qui perçoit les religions comme un mal radical qu'il faut bien extirper pour garantir le progrès de l'humanité, avec un nombre d'adeptes de plus en plus élevé, quelle devrait être la réaction des grandes traditions religieuses ?
Face aux éléments négatifs des institutions religieuses, face aux violences qui ont existé, des chrétiens à l'égard des juifs, des chrétiens à l'égard des musulmans à l'égard des juifs, des musulmans à l'égard des chrétiens, etc. Donc il y a eu de terribles violences à travers l'histoire. Et face à cette violence, eh bien, cela donnait beaucoup d'arguments pour les athées, en disant, regardez, tous parlent de compassion, de miséricorde, d'amour, mais dans les faits, ils s'entretuent. Et c'est vrai, il faut bien le reconnaître, il y a eu des horreurs dans le passé et parfois dans le présent. Donc les athées ont eu ce rôle aussi de dire, voyez, vous n'avez pas tenu, vous n'êtes pas à la hauteur des enseignements que vous prêchez. Donc il y a quelque chose à entendre de positif. Et en même temps, ce qui est problématique, bien sûr, dans l'athéisme, c'est qu'il généralise. Et on voit bien que l'athéisme du XXe siècle, qui s'est répandu dans le marxisme, le stalinisme, le maoïsme, ça a eu des dégâts bien plus catastrophiques encore que ce que les églises ont fait. Donc, face au matérialisme, à l'athéisme militant aujourd'hui, c'est fondamental de rappeler que l'histoire de l'humanité a été marquée par des hommes comme Jésus, jusqu'à un Gandhi aujourd'hui, ou ces dernières décennies, des personnalités comme cela qui ont été des hommes de foi. Et on ne peut pas remettre tout le monde dans le même paquet en disant que c'est la faute à la foi, c'est la faute au monothéisme. Non, il y a une manière tragique de vivre le monothéisme qui tue, mais lorsque le monothéisme est vécu, à la suite des grands sages et des prophètes, en particulier de Jésus, eh bien, c'est un ministère de réconciliation, c'est un ministère de paix, c'est un ministère de justice, et c'est ça qui est très important, et c'est ce témoignage qui compte aujourd'hui.
Inter-Sainte, juifs, musulmans et chrétiens de différentes confessions vivent ensemble. C'est à eux que le pape François adressera son message. Cela aura lieu, comme on l'a dit, dans une période de l'histoire où le monothéisme pose une question herméneutique qui concerne leur genèse et leur développement. Le monothéisme est-il intrinsèquement porteur d'une charge de violence ?
Alors, une fois de plus, on voit bien que le monothéisme peut être extrêmement exclusif ou alors il peut être source de rapprochement. Cela dépend de la manière d'interpréter ces textes fondateurs. Alors, il y a une manière autosuffisante de lire ces textes, et cette manière autosuffisante a été source de très grande violence. a une manière aussi d'ouverture qui fait qu'il y a une attitude de cœur qui va faire qu'on va être beaucoup plus humble tout en étant clair dans sa foi, mais une attitude d'humilité. Il y a une attitude schismatique qui fait qu'on affirme « j'ai raison, l'autre a tort » et il y a une attitude symphonique qui dit « l'autre a ses raisons et j'ai aussi mes torts ». Et lorsqu'on entre dans une attitude symphonique, eh bien, à partir de cette attitude, on peut écouter les arguments des autres sans forcément les approuver et tout en reconnaissant aussi que nous avons des torts qui doivent être changés. Et je crois que c'est cette attitude symphonique qui va faire qu'on peut être en lien. Mais il est vrai, très souvent, le monothéisme, ou on voit aussi le matérialisme aujourd'hui, a une attitude très carrée, très schismatique, au lieu d'avoir une attitude symphonique.
Vous avez parlé d'une attitude symphonique. Y a-t-il une véritable théologie de la rencontre chez le pape François ?
Selon ce que je perçois, oui. Je crois qu'il y a cette attitude de rencontre, une attitude d'écoute, une attitude d'être très attentif à la situation des personnes fragilisées, les réfugiés, les personnes qui vivent dans une situation difficile. Et je crois que dans ce sens-là, le pape François est un exemple parce qu'il va à la rencontre dans une attitude d'humilité. Donc prendre l'initiative de rencontrer, prendre l'initiative d'être auprès de ceux qui souffrent, c'est une attitude fondamentale. Je pense aussi à un très vieux texte de la Bible, si nous remontons dans un texte fondateur, le livre des Actes, il y a cette attitude où Pierre et Jean se rendent au temple. Et je trouve que ce texte est très éclairant aussi par rapport à la rencontre qui aura lieu, parce que Pierre est la figure, bien sûr, de l'apôtre Pierre et de tout ce qui va être donné par la suite et vécu dans l'Église catholique, qui se réfère à Pierre, et puis Jean, souvent les orthodoxes se réfèrent à Jean. Et dans ce texte d'Acte 3, on voit que Pierre et Jean sont attentifs à la souffrance d'un homme qui est paralysé. Et c'est parce qu'ils sont attentifs à cette souffrance que Pierre va pouvoir prendre la parole, et grâce à sa foi, grâce à son ouverture au Christ, cet homme qui était paralysé va pouvoir se mettre à marcher. Et pour moi, c'est une parabole et c'est vraiment ma prière aussi. Cette attitude de rencontre qui est à l'écoute de ceux qui souffrent est actuellement un des endroits sur la planète où la souffrance est extrêmement grande. C'est entre juifs et palestiniens. Et ce conflit se répercute dans le monde entier. Parce que les tensions entre chrétiens, juifs, musulmans à travers la planète viennent aussi beaucoup de ce qui se passe en Israël-Palestine. Donc, dans le texte biblique, on voit Pierre et Jean, donc figure du pape et du patriarche, qui sont à l'écoute de la souffrance. Et dans cette situation d'un homme paralysé, grâce à la foi, grâce à l'Esprit Saint, eh bien, cet homme se met en route. Et c'est ma prière pour que dans cette situation, la situation bloquée puisse vivre un déblocage, que quelque chose soit remis debout. Donc je mets beaucoup d'espoir dans cette attitude de théologie de la rencontre que le pape François met en œuvre.